Bonjour.
58 pays traversés, plus de 100 000 kilomètres à la force du mollet. Ce rêve, il est né comment? Il y avait une envie de voyage, de découverte, mais avec un rythme différent?
Ce rêve est né à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé à faire mon premier voyage en dehors des frontières européennes. J'allais au Vietnam. Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur le monde, les différences au niveau des cultures, des paysages. Du coup, j'ai été un peu piqué par le virus. Et puis, chaque fois, après chaque année, je voyageais durant mes vacances professionnelles. Et à chaque retour dans l'avion en direction de Genève ou de Zurich, je me disais, ben voilà, il va falloir travailler une année avant de pouvoir repartir. Et puis, je m'étais fait la promesse autour de 25 ans, si je pouvais faire une fois un tour du monde, ce serait un rêve. Et puis, j'ai choisi le vélo pour l'accomplir.
Et en 2012, vous saviez que vous partiez pour 6 ans, vous aviez 1000 compteurs à moins 100 000?
Alors, j'avais 1000 compteurs à moins 60 000. J'avais prévu 5 ans à la base. Pour ma famille, j'avais dit une année. Et puis, ben, j'étais complètement à l'ouest au niveau des prévisions parce que j'avais tracé des traits en ligne droite sur Google. Et puis, du coup, j'ai fait plusieurs détours pour arriver à 109 000 km au total.
Alors, finalement, donc, 6 ans loin de ses proches, 6 ans loin de chez soi, c'est tous les jours du bonheur ou est-ce qu'il y a quand même parfois des petits moments de blues où on se sent un peu fatigué, évidemment, mais aussi dans la tête?
Je dirais surtout le début, je veux dire, les premières semaines ne sont pas faciles, hein, parce qu'on quitte son petit confort, sa petite maison, sa copine, pour se retrouver le cul assis sur une selle. Donc, c'était pas facile. Il pleuvait en plus. On a un peu peur, on se méfie un peu des gens. Le corps fait mal, bien sûr. Et puis, petit à petit, tout se met en place. Le soleil revient. Les gens n'ont pas l'air si mauvais que ça. Et puis, le corps s'habitue à tout. Donc, à ce moment-là, après 2-3 semaines, j'ai commencé à lever la tête et plus me focaliser sur mes peurs et mes douleurs, et puis que j'ai commencé à ressentir tout ce qui m'entourait. Maintenant, au niveau des proches, non, c'est pas bien difficile, parce que à l'heure actuelle, on a des moyens de communication qui nous permettent de garder contact via les réseaux sociaux ou par Skype. Et puis, je m'embêtais jamais, chaque jour était différent, paysage différent, rencontre différente.
Vous étiez un mordu de vélo avant le départ. Je crois que votre papa, c'est le chef technique du Tour de Romandie. Hein. Il y a quand même un peu d'ADN vélo chez vous.
c'est clair qu'on est une famille cycliste à la base. J'en ai pratiqué un peu en compétition jusqu'à l'âge de 20 ans, mais sans grand exploit. Et puis, après, j'ai quand même arrêté pendant 10 ans, en étant toujours actif un peu dans le domaine sportif. Et puis c'est vrai qu'en choisissant, en regardant les différentes options pour faire ce tour du monde, je suis tombé sur le vélo à la suite d'un blog que j'ai lu d'un Danois qui rentrait dans ce tour du monde sur 5 ans à vélo. Et ça paraissait bon marché, ça paraissait un moyen incroyable de communication. Je connaissais la mécanique, je savais que j'aimais le vélo, du coup c'était imposé un peu comme une évidence à moi.
Justement, est-ce que le vélo permet des rencontres différentes ou en tout cas un tour du monde différent, peut-être aussi parce que le matériel pris avec est moindre que si vous aviez, je sais pas, un véhicule automobile. Les rencontres sont différentes, devoir demander aux gens si vous pouvez camper dans leur jardin, par exemple, c'est différent le tour du monde en voiture, en vélo, pardon.
Alors ça c'est clair, comparé à un tour du monde en voiture ou avion ou je ne sais quoi, ça c'est sûr. L'avantage, c'est avec notre vélo, on est directement au niveau des gens, voire en dessous du niveau des gens, et ça partout dans le monde. Du coup, pour casser la glace et créer un contact, c'est beaucoup plus facile. Et puis, le fait est qu'aussi, on voyage à allure raisonnable, hein, quasi à la vitesse du pas, donc ça permet d'observer et de voir les choses aussi beaucoup plus facilement qu'en voiture. J'avais tendance à dire qu'en voiture, on voit seulement les choses. En moto, on voit et on sent les choses, tandis qu'en vélo, on a tous les sens qui sont ouverts et on peut ressentir les choses.
Alors, plus de 100 000 kilomètres parcourus pendant ces 6 ans, Pascal Berchi. Alors, j'imagine que vous avez eu le temps de digérer ce voyage et puis de faire l'inventaire des souvenirs. Du coup, le meilleur et le pire souvenir, pour vous, c'est quoi ?
C'est toujours assez compliqué de répondre à cette question, parce que le meilleur, il y en a tellement de bons. Si je devais retenir une chose, ce serait la générosité. La générosité des gens, la spontanéité, et ça partout dans le monde. Que j'ai reçu, j'ai pris une grosse gifle dans la figure de ce côté-là. Donc ça serait le positif. Et puis le négatif, je dirais le point qui me pose le plus de problèmes, c'est sur ma traversée de l'Éthiopie, où j'ai pas été bien reçu. En fait, les cyclistes qui traversent l'Éthiopie, c'est assez compliqué. On se fait caillassé par les enfants, poussé, bousculé, craché dessus. On est un peu trop exposé par rapport à un touriste en bus ou en voiture, on le sait. Et ça, c'est vrai que j'essaie de me donner le temps dans ce pays pour être, de comprendre ces gens, et j'ai échoué. Du coup, c'est un peu mon plus gros regret.
Justement, vous évoquiez les bons souvenirs, l'accueil hein, en général, à part un ou deux pays, pour aussi des questions de situation qui sont parfois un petit peu difficiles. Mais est-ce que lorsque l'on est à vélo, finalement, on véhicule une image un petit peu particulière quand on voyage à vélo à travers le monde, ce qui fait qu'on a un accueil un petit peu différent, presque... J'allais presque dire un peu une part de respect de la part des gens qui, en vous voyant, se disent « Ben tiens, à travers ses yeux, je vois un bout du monde. »
Alors, c'est exactement ça. C'est, comme je disais un peu avant, c'est qu'avec toute notre barda, on arrive, on est directement au niveau des gens. Donc, le contact est beaucoup plus facile et le respect, c'est sûr. J'ai des anecdotes, notamment lors de passages de frontières où finalement le douanier était plus intéressé à prendre des selfies avec moi que savoir où j'allais aller ou si j'avais un visa. Donc je disais toujours que j'aurais pu transporter 20 kilos de cocaïne dans mes sacoches depuis la Suisse, qu'ils auraient sûrement ramené 6 ans après, quoi, parce que je crois que mon vélo n'a jamais été fouillé, peut-être dans les aéroports, mais à travers les frontières terrestres, on n'a jamais fouillé mon vélo.
Pascal Berchi, avec ce livre, alors évidemment, vous partagez votre aventure, hein, vous nous racontez ces 6 ans de voyage. Est-ce que c'est aussi prouver à tout un chacun qu'on peut réaliser ses rêves, qu'il faut finalement juste y croire, et puis après on arrive à se donner les moyens de réaliser ses rêves ?
Voilà, c'est aussi un des messages principaux que j'essaye de faire passer, c'est que tout le monde peut vivre ses rêves, il faut parfois faire des sacrifices, payer un peu de ces personnes pour y arriver. Mais en plus, en Suisse, on habite dans des pays en Occident qui nous permettent de faire ça sans trop prendre de risques, finalement. Et ouais, je crois qu'il serait bête de vivre sur des regrets.
Pascal Berchi, merci beaucoup d'avoir passé quelques instants ce matin dans Format A3. Je rappelle que vous allez dédicacer ce livre samedi à la librairie Payot à Neuchâtel. On mettra évidemment toutes les informations tout à l'heure avec cet entretien sur la page de Format A3. On vous souhaite une belle journée. À bientôt.
Merci, pareillement. Au revoir.